Bonjour à toutes et à tous, René, avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour le magazine Ondes de Chine, comme chaque premier samedi du mois entre midi et 13h. Sommaire de cette émission, eh bien, nous reviendrons sur un événement qui a lieu il n'y a pas très longtemps sur la métropole. Il s'agit de l'Île Art Fair, donc la foire de l'art contemporain. Et nous avons eu l'occasion d'y aller avec Yao Rong, avec Jie et avec Jiachi. L'occasion de représenter un petit peu cet événement dans son contexte avec des interviews des artistes et des galeristes qui étaient donc dans ce salon, cette foire de l'art contemporain.
那时的我还没剪去长发，没有信用卡，没有他，没有24小时热水的家。可当初的我是那么快乐，虽然只有一把破木吉他，在街上、在桥下、在田野中，唱着那无人问津的歌。 如果有一天我老无所依，请把我留在在那时光里。如果有一天我就要离去，请把我埋在这春天里。 还记得那些寂寞的春天，那时的我还没冒起胡须，没有情人节，没有礼物，没有我的可爱的小公主。可我觉得一切没那么糟，虽然我只有对爱的幻想，在清晨在。 春眠，依然像那时温暖的模样。我剪去长发，留起了胡须，曾经的苦痛都随风而去，可我感觉却是那么悲伤。岁月留给我更深的迷惘，在这阳光
Voilà, après cette magnifique chanson, je vous propose de retrouver donc l'équipe d'Ondes de Chine lors de l'île Art Fair. Et voilà, je vous propose d'écouter l'interview réalisée autour de la galerie Vitou qui présente une artiste qui s'appelle Ruta Junsionit.
Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre galerie?
Alors, nous sommes une galerie qui vivons en Champagne-Ardennes, qui a 7 ans d'existence et qui est principalement axée sur des jeunes artistes émergents, jeunes ou vieux d'ailleurs. Donc, nous sommes à Reims en Champagne-Ardennes, nous sommes la galerie du Cardo et nous présentons principalement des artistes dits émergents. Sur cette foire, 3 sont présents. Maxime Frérot, qui présente un travail dans l'esprit de l'art singulier. Christophe Lachise, avec un travail plus poétique. Et puis Ruta Junsionit, une jeune artiste d'origine lituanienne, mais qui vit en France depuis une douzaine d'années, avec un travail de sculpture, de terre et de bronze.
Pour ce travail, c'est l'artiste de...
Donc Ruta Junsionit, qui fait un travail de terre, alors donc un travail dans la mouvance de l'expressionnisme, hein, puisque ce sont des objets qui peuvent quelquefois impressionner par leur forme, leur expression. Donc c'est un travail pas toujours facile à aborder, mais qui allie en même temps... La fragilité, oui, et la force, j'ai envie de dire, et puis une certaine douceur et une certaine dureté, c'est toute l'ambiguïté de ce travail, je trouve.
Et pour son travail, il est que faire les sculptures ou il fait quand même les peintures avec, il a un lien entre les...
Non, Ruta, c'est un artiste sculpteur principalement, il y a une force chez elle qui fait qu'elle va vers ce travail-là. Alors, tous les sculpteurs ont un travail de dessin, d'ailleurs on en présente aussi, hein, parce que ça va avec. Mais Ruta, c'est une femme sculpteur, c'est dans sa nature de faire ce travail.
Comment votre galerie choisit l'artiste? Parce que c'est le travail plus différent.
Le choix des artistes, je pense que ça passe d'abord par l'appréciation de la qualité du travail et puis aussi la volonté qu'a l'artiste de faire une œuvre, hein, parce qu'il y a énormément d'artistes. Je pense que la galerie a un rôle de filtre, et ce filtre-là se fait donc par la qualité et par, encore une fois, le désir qu'a l'artiste de faire carrière et de faire une œuvre. Et je pense que ça, ça peut distinguer des volontés de travail artistique.
Dans quelques... Voilà, très belle sculpture donc de cet artiste Ruta Gestionit. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres interviews avec Onde de Chine. Écoutez Radio Campus 106,6 FM, Onde de Chine, comme chaque premier samedi du mois entre midi et 13h. Voilà, je vous propose une autre interview, l'interview des responsables de la galerie Dock Sud. C'est une galerie qui est présente à la fois à Sète et aussi à Pékin. Et donc on va parler dans cette interview du marché de l'art en Chine et aussi de la légitimité des artistes chinois par rapport à l'art contemporain. Voici donc le point de vue de la galerie par Martin Bess, qui est directeur, et Aymeric Filière, responsable. Une interview réalisée par Xu Yaorong, Bao Jie, Liu Jiaqi.
Alors, la spécificité au départ de la Galerie A7, c'était de vendre des peintres sétois, français et sétois, mais surtout des peintres sétois, puisqu'il y a une très belle école sétoise à 7, hein, je pourrais vous citer un tas de noms. Et après, au fur et à mesure, nous avons fait des rencontres qui... Alors, ça a été vraiment le hasard qui nous a amenés en Chine, puisque nous avons rencontré une étudiante chinoise qui faisait les beaux-arts à Avignon et qui est passée à la Galerie. Et de fil en aiguille, on va dire, petit à petit, les choses sont faites. On s'est retrouvés plus d'un an après... à Songjiang, dans ce village où il y a 5000 artistes, où il y a... Alors quand je dis artistes, ce ne sont pas tous des peintres. Il y en a qui travaillent la sculpture, qui travaillent le fer, le verre, etc. Des artistes de toutes sortes. Hein. Et nous, nous sommes installés, nous avons deux ateliers d'artistes là-bas, ce qui nous permet de faire des résidences d'artistes français aussi là-bas.
Je connais un petit peu le marché de l'art en Chine, oui. Pour le contemporain. Il y a quelques années, il marche bien en Chine.
Oui.
Et en ce moment, il y a moins en moins de les travaux qui sont vendus.
Oui.
Comment vous...
Alors, ça reste néanmoins le premier marché mondial de l'art contemporain, la Chine. Ça reste quand même. Les deux plus grandes ventes sont des peintres chinois. Alors, pour enchaîner, ici, on présente quatre artistes chinois. Ce sont des choses totalement différentes. On a essayé de faire voir que la Chine, du moins de ce que nous on en connaît, ça n'est pas un style unique, mais on retrouve tout à fait des choses qui sont totalement différentes, comme vous voyez ici. Ici on présente notamment, alors c'est dommage que vous ne l'ayez pas rencontré puisqu'il était là, il est en France depuis le 3 avril, il va rester 3 mois à 7 en résidence, il va peindre chez nous. Et là il est reparti il y a très très peu de temps, il est parti cet après-midi pour se rendre à Paris, parce qu'il voulait absolument voir le Louvre et Orsay. Et là, vous voyez, on a des styles qui sont totalement différents dans leur conception. Alors, Liu Ziyang, c'est un garçon qui a 31 ans, qui commence à être très très connu, notamment au 798, il est exposé là-bas. Le 798, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, on va dire, le musée, le lieu d'exposition le plus connu à Pékin. Donc vous voyez une peinture qui est tout à fait, qui est peinte avec beaucoup de force, une peinture intemporelle, parce que ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, je dirais même dans plusieurs siècles, ça n'aura pas bougé. Ça traite de l'humain.
Normalement, je trouve votre galerie, c'est le différent style. J'ai envie de savoir s'il montre le différent style, c'est comment qu'il correspond le thème.
Alors, nous, on ne cherche pas à tout prix à présenter différents styles. La seule chose que l'on cherche à faire, c'est à présenter des artistes que nous aimons, pour lesquels nous avons un coup de cœur, tout simplement.
Parce que je sais, l'artiste chinois contemporain, il fait beaucoup de projets, beaucoup de questions sur la vie sociale de Chine.
Oui.
Et puis comment, parce que je ne sais pas, pour les spectateurs occidentaux, je ne crois pas, tout le monde il comprend bien notre vie sociale en Chine. Et comment vous pensez les éléments dans le travail qui a un lien avec la politique?
Il n'y a pas toujours un lien avec la politique. Il y a un lien ici avec la politique, avec Chen Qingdong. Il y a toujours un thème. Un peintre chinois, c'est ce qu'on a appris. Il y a toujours un thème, il y a toujours une pensée.
Bonjour,
Bonjour.
Alors ce monsieur, qui est le directeur artistique de la galerie, qui est le directeur tout court de la galerie, eh bien, ce monsieur se rend, c'est lui qui fait le suivi de la Chine, et ils se rend tous les deux mois à Pékin, Songjiang. Voilà, tous les deux mois à peu près. Voilà.
Bon, bienvenue. Alors, bienvenue des petites chinoises. Voilà, je suis en Chine parce que je trouve que c'est dans le niveau de l'art. Je trouve que la Chine, c'est en ce moment, c'est là où ça se passe. La Chine est devenue leader mondial de la vente d'art dans le monde. J'y étais une fois par hasard. J'ai rencontré énormément d'artistes qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Et je suis totalement séduit. J'ai totalement été séduit puisque j'ai tout de suite loué un atelier là-bas pour pouvoir m'y rendre souvent et vivre avec les artistes. En vivant avec les artistes, j'ai approché leur travail et Et j'ai approché leur personnalité aussi, et puis j'ai investi sur leur travail, et maintenant, je les présente dans des foires internationales d'art contemporain. Voilà, hein, à peu près.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elles, elles ont déjà un diplôme en Chine. Hein.
Ah, donc,
elles
sont mais déjà qu'est-ce qu'elles font comme diplôme? Qu'est-ce que c'est diplôme de...
D'art classique.
D'art classique. Ouais. Ah, oui.
Et donc, elles sont venues ici parce qu'elles se disent se lancer dans l'aventure de l'art, d'une manière générale, et contemporain encore plus... Elles sentent qu'en Chine, il n'y a pas de racines par rapport à ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est est-ce qu'en Chine, les artistes chinois, par rapport à l'art contemporain, ont une légitimité et à quel niveau?
Alors bon, c'est une question quand même assez compliquée, mais moi je pense justement, par exemple hier, on avait le petit peintre qui s'appelle Liu Chenyong, là qui est ici, il est né en 1981. C'est-à-dire au tout début de l'ouverture de la Chine, hein, et donc il peint depuis l'âge de 6 ans, et je pense que justement la légitimité vient de cette ouverture, à l'art, de cette soif, de cette soif de produire, de cette soif de se réaliser, et de fait aussi de ne pas avoir de barrières, de ne pas avoir des habitudes, mais je le vois même dans le comportement des artistes, ils sont volontaires, c'est des bosseurs, ils ont envie, ils ont pas l'ego qu'on a avec nos artistes français. Un artiste français qui commence à vendre en France, eh bien on peut plus lui parler, c'est une star, il se prend pour le bon Dieu. Là non, ça rigole, c'est ça. Moi je pense que la légitimité, c'est l'ouverture, la possibilité quoi que l'art ait été pris en considération à partir des années 80 en Chine, d'accord, avec une ouverture, et puis l'ouverture de cet art au monde, quoi. Je pense que c'est en Chine que ça se passe.
Alors elles viennent chercher les racines de l'art contemporain.
Oui, mais évidemment, les racines de l'art contemporain, mais c'est en Occident qu'est l'histoire, hein, c'est en Occident qu'est l'histoire, c'est ici qu'elles vont trouver, eh bien, pour parler du petit peintre qui est ici, eh bien, il me cite Cézanne, il me cite Van Gogh, pour un art plus classique, mais on va leur parler de Marcel Duchamp aussi, quoi. En Europe, en Occident, c'est à Paris que l'art contemporain est né avec New York, c'est en Occident, quoi.
Ce n'est pas pour rien qu'un artiste que vous présentez est allé aujourd'hui au Louvre et...
Oui, mais bien entendu, il nous a laissé parce qu'il voulait absolument aller au Louvre, évidemment. Il est en train de réaliser un de ses plus grands rêves.
C'est la même quête, en fait.
Mais oui, évidemment. Oui, c'est la même quête, voilà.
Il s'appelle Choyan Khoi, il est iranien. Il peint des grands tableaux, des grandes toiles magnifiques. Et également, il crée des carnets de voyage à chaque fois qu'il visite un pays. Et il en visite beaucoup chaque année. Voilà, je vous propose de le rencontrer. C'est un personnage atypique, un artiste exceptionnel. Voilà, une rencontre qu'on n'en fait pas tous les jours. Interview de Choyan Khoi.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. En fait, je suis Choyan Khoi et je fais une exposition sur les tableaux, en fait, dans plusieurs galeries, d'ailleurs en Chine aussi. Et les carnets de voyage, c'est ce que vous voyez ici, c'est un an de voyage. C'est à peu près 25 pays, dont deux fois en Chine. Une fois en Tibet, Lhasa, et une deuxième fois de Shanghai à un traversé jusqu'à Dazhou. Qui sont là. Donc c'est en fait des carnets de voyage sert de la création pour faire les tableaux.
Vous visiter les pays, vous avez les pays choisis ou vous avez un plan avant de partir pour quelle culture ou le lien entre les plusieurs pays?
Oui, en fait je vais faire tout le pays. J'ai fait deux fois et demi le tour du monde. Chaque année je fais 25 pays. La Chine, évidemment, c'est un grand pays, donc automatiquement, on tombe dedans. Il y a des endroits très beaux en Chine. Mais je fais tout le pays, donc en fait, il n'y a pas un choix précis. On va tout, par rapport au temps, par rapport au système économique, par rapport à des révolutions, par rapport à... Mais quand on voyage dans tout le pays.
Parce que vous avez dit c'est un voyage hein, tous les pays et ensuite faire le tableau. Et moi, j'ai envie de savoir comment vous faites le tableau. C'est issu le voyage. Et présente de quel thème, quelle histoire.
Bon, la première question, c'est que comment je fais les tableaux. En fait, chaque voyage, il a son intérêt. Aller dans un pays comme l'Islande, ce n'est pas le même pays comme, par exemple, l'Iran. C'est deux choses différentes, donc on ne fait pas en même temps. Chaque pays est séparé pour faire chaque tableau. Mais c'est des séries. Les séries que vous voyez ici, c'est les séries l'Asie. Et c'est une série thématique matière. Donc, l'idée, c'est toujours sur des symboliques. Chaque symbole est étudié par rapport à chaque collection. Mais dans les carnets de voyage, quand on regarde un carnet de voyage, on trouve les mêmes idées des tableaux. Un tableau, c'est concentré d'un carnet de voyage. Chaque tableau, il y a des idées de carnet de voyage dedans. Par exemple, si vous regardez celle de Tibet, vous voyez en face des mêmes éléments dedans. L'un dans l'autre, c'est le même ton des couleurs, même élément, tout est mélangé ensemble. Voilà.
J'ai intéressé votre travail sur le livre.
Oui.
Parce que c'est le livre, beaucoup de collections, c'est là, beaucoup de choses sur le pays.
Oui.
C'est les objets.
Oui. Alors, en fait, chaque livre... C'est un mélange de premier jour d'arrivée dans l'aéroport jusqu'à dernier jour. En fait, un livre est compression de tout ce qu'on voit, de l'aéroport, des billets d'avion, jusqu'à tout ce qu'on trouve sur place. Un livre est vraiment étudié et travaillé tous les jours. Donc, c'est concentration de ça qui fait la beauté du livre. Mais surtout, si vous avez tous les livres, exemple, si on met les 300 livres, ça va jusqu'au bout de la porte. C'est un grand travail, parce que quand même, il faut les trouver, il faut les chercher, il y a énormément de travail. Donc, en fait, la vraie valeur d'une exposition se fait par rapport à nombre de temps que vous passez dans un pays et le nombre de temps que vous rencontrez les gens dans le pays.
C'est sur le livre, vous choisissez beaucoup de la nature, comment c'est là?
Non, il n'y a pas beaucoup de nature. Il n'y a absolument pas de nature, en fait, il n'y a que des éléments... matériaux qu'on utilise. Ça va de ceintures jusqu'à des peignes, jusqu'à des bijoux. Chaque objet, il est dedans d'une manière totalement inédite. Le travail qui est ici, le travail en fait de carnet de voyage, c'est pas un travail qui est un travail, c'est fait pour s'amuser. C'est ni fait pour vendre, ni fait pour... c'est juste pour qu'on regarde qu'est-ce que c'est le pays. N'a rien à faire avec... absolument rien à faire avec un travail.
Mais nous sommes dans un marché de l'art. Et vous disiez, ce n'est pas pour vendre.
Absolument pas.
S'il y a quelqu'un, il veut acheter votre livre de voyage carnet.
Oui.
Et comment vous pensez, ce livre, il peut donner les gens quelle idée ou quelle...
Chaque culture a sa manière. Le peuple iranien, il a un avantage sur les autres peuples. Nous, on peut très bien dire non et on reste sur notre don. D'ailleurs, on le voit dans le monde aujourd'hui. Ils ont un caractère spécifique. Et moi, il n'y a pas de prix. Je ne vends pas. Un, parce que c'est une œuvre très personnelle. Deux, c'est parce que l'art n'est pas fait juste pour vendre. Je gagne bien ma vie. Un tableau, c'est le travail de 2 ans de quelqu'un normal. On n'a pas besoin de vendre d'autres choses. Et troisième chose, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. On aime quelque chose, on reste dessus. C'est ça qui fait la valeur des gens. Si on voulait vendre tout ce qu'on a, il valait mieux faire l'immobilier, pas l'art.
Je suis d'accord avec vous, dans la vie, il n'est pas seulement l'argent. Mais je crois que vous visitez les pays qui sont pauvres. Il y a les habitants qui sont pas assez de l'argent. Et puis pour eux, l'art, c'était quoi?
Sincèrement, je m'en fous totalement de ceux qui pensent que l'art est quoi. Parce que pour moi, ça n'a pas d'importance si vous allez dans un pays qui est pauvre ou pas pauvre, parce que j'ai fait 130 pays, c'est-à-dire tous les pays. Et quel que soit le pays, ça n'a pas d'importance s'ils ont l'argent ou non, c'est la valeur des gens qui sont importantes. J'étais dans vos pays, Chine. Je suis allé en 79. Et le pays était très pauvre, pas un peu pauvre, très très pauvre. Et par contre, j'ai vécu avec des gens exceptionnels. J'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui encore mes amis et ils sont devenus des très grands artistes et ils sont millionnaires aujourd'hui. Donc, ça ne change pas grand-chose dans l'aspect. C'est vrai que quand on n'a pas l'argent et qu'on pense que dans le milieu d'art, en vendant des tableaux, on peut devenir riche, c'est une grande erreur. Très grande erreur. Parce que l'art est aléatoire. Ça peut marcher aujourd'hui, ça peut ne pas marcher demain. Je peux être créatif aujourd'hui, je peux ne pas être créatif demain. Et tout ce qu'on fait, preuve, c'est que ici, vous n'avez pas de prix. Il n'y a aucun fiche de prix, ni prix. Parce que c'est aussi parce que c'est un choix, et un choix qui est plutôt basé sur le plaisir de rencontrer les gens, parler avec des gens. Dans ce cas-là, je ne dois pas parler avec vous, parce que vous ne m'achetez pas. Parce que je dis, oh, j'ai pas de temps. C'est le meilleur exemple. Vous n'avez aucun intérêt financier pour moi. Donc pourquoi parler ? Pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait la valeur des gens. C'est communication, parler, rencontrer, échanger. Et tout ça, c'est la mélange des gens, la mélange entre votre culture et la mienne, ça passe déjà par cette contact. Parce que demain, si en Chine, en Chongqing ou n'importe où, vous rencontrez un Iranien ou un Français, vous allez dire, oh, on l'a rencontré un. Déjà, on n'est pas étranger à vos yeux. C'est ça qui fait la différence. Donc, ne mélangez pas l'argent et l'art.
Merci à Yao Hong, à Jie et à Tiachi pour ce reportage donc concernant Shayan Khoi, un artiste iranien exceptionnel, comme vous avez pu l'entendre.
Come. Bonjour, je m'appelle Zhangzi, je viens de Chengdu, de la province de Sichuan, en Chine. Je vous souhaite bonne écoute de Radio Campus, Université de Lille.
Écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com, notre émission Onde de Chine, comme chaque premier samedi du mois, entre midi et 13h. Voilà, après cette grande séquence consacrée à l'île Art Fair, donc autour de l'art contemporain, nous invitons maintenant Yi Liang, qui est étudiante à l'Université Lille 1. Bonjour Yi Liang.
Bonjour.
Donc, tu es étudiante à Lille 1 et tu étudies quoi exactement ?
Je fais système d'information et aide à la décision en troisième année de licence.
Oui, ça se passe bien ?
Oui, ça se passe bien, c'est sympa.
Il y a longtemps que tu es en France ?
Oui, ça fait 3 ans et demi.
Et tu parles très bien.
Merci.
Bravo, ouais.
En fait, c'était ma première année quand je suis arrivée en France et j'ai appris le français pendant un an.
Bon résultat.
Merci.
Donc, tes cours, tu disais que tu suis des cours en gestion, informatique.
Oui, les statistiques en même temps.
Statistiques, ouais.
Oui, c'est un peu tout.
Et tu cherches un stage, c'est ça ?
Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Mais c'est un peu trop tard, en fait, parce que c'est à partir du 1er juin.
Oui.
Jusqu'au 15 septembre, mais j'ai toujours pas trouvé.
Bon, on va passer un appel à la radio alors. On va proposer aux gens de nous téléphoner s'ils veulent prendre une stagiaire. Alors, tu peux nous dire exactement les missions auxquelles tu pourrais correspondre ?
Oui, en fait, on peut faire 2 missions. Et une, c'est sur la construction, la création d'une base de données, l'optimisation. Une base de données, des fichiers clients. Et l'autre, c'est sur les statistiques. Je peux faire la réalisation d'une enquête ou bien l'analyse des résultats en utilisant SAS, des choses comme ça.
Tu travailles sur les bases de données, tu crées aussi les logiciels, non ?
Je connais un peu la langage VBA d'Access et d'Excel. Je sais surtout utiliser Avancement. Access, c'était dans mon cours. Et donc, le stage, c'est pour approfondir les connaissances, surtout en Access.
Voilà.
Oui.
Donc, l'idée, c'est, bon, pour une entreprise qui cherche à travailler sur ses données pendant les vacances, ce serait le bon moment avec toi. On espère avoir beaucoup de personnes qui te sollicitent pour ce stage.
Merci.
Vous écoutez Radio Campus, la radio de l'Université de Lille, dans le nord de la France.
您在收听的是 Radio Campus, 法国北部最受欢迎的校园电台。
春的岁月，我们身不由己，指引着胸中燃烧的梦想。青春的岁月，放浪的生涯，就任这时光奔腾如流水。体会这狂野，体会孤独，体会这欢乐，爱恨离别。体会这狂野，体会孤独，这是我完美生活，也是你完美生活。我多想看到你那一株灿烂的笑。
Voilà, et bien Indochine c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve le premier samedi du mois de juin. Et je voudrais dire merci et bonne chance à Aï.
Merci monsieur, voilà. C'est vraiment gentil.
Donc on va se mobiliser pour te trouver un stage, bien sûr. Hein, mais tous les auditeurs qui souhaitent contacter Aï, n'hésitez pas, c'est contact@ondechine.fr. pour donc ce stage qu'elle souhaiterait réaliser dans le domaine des bases de données, etc. Un stage qui aura lieu entre juin et septembre. Et restez à l'écoute de Radio Campus.
Retrouvez nos émissions sur la Chine sur www.ondedechine.fr.
您可以登录www.ondesdechine.fr 收听我们有关中国的节目。
青春的岁月，我们身不由己，指引着胸中燃烧的梦想。青春的岁月，放浪的生涯，就任这时光奔腾如流水。体会这狂野，体会孤独，体会这欢乐。